On va voir ce matin l'histoire d'une personne qui appréciait particulièrement la présence de Jésus. Et puis on a chanté aussi un parfum de valeur est répandu sur toi, Seigneur Jésus, je crois. Alors vous avez deviné de qui je vais parler? Ben oui. L'onction de Béthanie, qu'on trouve en Jean chapitre 12. Les évangiles nous rapportent deux épisodes où le Seigneur Jésus a reçu une onction de parfum. Nous allons lire ensemble ces deux épisodes et nous essaierons d'en dégager les points communs et puis aussi les différences, et surtout d'en tirer une exhortation spirituelle pour nos cœurs. Alors le premier se trouve dans l'évangile de Jean, qui comme vous le savez sert de base à mes messages depuis déjà pas mal de mois, et j'en arrive à Jean 12. Donc Jean chapitre 12, je suis dans les actes, moi. Jean chapitre 12, et je crois qu'on commence au verset 1. Voilà. Jean 12, verset 1, je lis dans la version du semeur. 6 jours avant la Pâque, donc vous voyez, on est tout près de la mort de Jésus. Hein, Jésus se rendit à Béthanie, où habitait Lazare, celui qu'il avait ressuscité d'entre les morts. On prépara là un festin en son honneur. Marie s'occupait du service et Lazare avait pris place à table avec Jésus. Marie prit alors un demi-litre de nard pur, un parfum très cher. Elle le répandit sur les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Toute la maison fut remplie de l'odeur de ce parfum. Judas Iscariote, l'un des disciples de Jésus, celui qui allait le trahir, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum? On aurait pu donner aux pauvres au moins 300 deniers. » S'il parlait ainsi, ce n'était pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais il était voleur. Et comme c'était lui qui gérait la bourse commune, il gardait pour lui ce qu'on y mettait. Mais Jésus intervint. « Laisse-la faire. C'est pour le jour de mon enterrement qu'elle a réservé ce parfum. Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous, tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. » Entre-temps, on apprit que Jésus était à Béthanie. Les gens s'y rendirent en foule, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Alors les chefs des prêtres décidèrent aussi de faire mourir Lazare, car à cause de lui, beaucoup se détournaient d'eux pour croire en Jésus. Cet épisode est à coup sûr la même histoire qui nous est racontée en Matthieu 26, versets 6 à 13, avec son parallèle dans Marc 14, versets 3 à 9. On pourrait mettre d'ailleurs la première diapositive. Voilà. Plutôt la précédente, tu peux me remettre la précédente ? Donc voilà, vous avez donc les références de Jean 12, Matthieu 26 et Marc 14. Les textes de Matthieu et de Marc sont quasi identiques, on dirait un copier-coller. Ce qui fait que ce n'est pas nécessaire de lire les deux, il suffit d'en lire l'un, et on a l'histoire. Donc je vous propose de lire dans Matthieu, au chapitre 26. Vous savez au passage que les évangiles dits synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, se sont probablement fondés sur une même source, une source commune, ce qui explique ces similitudes considérables qu'on peut voir dans leurs évangiles, mais aussi des différences. Donc, Matthieu 26, à partir du verset 6. Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Une femme s'approcha de lui, tenant un flacon d'albâtre rempli d'un parfum de myrrhe de grande valeur. Alors là, le traducteur a mis un parfum de myrrhe, c'est en fait une erreur, parce que le mot myrrhone veut dire n'importe quel parfum liquide, hein, pas forcément de la myrrhe. Pendant que Jésus était à table, elle répandit ce parfum sur sa tête. En voyant cela, les disciples manifestèrent leur indignation en disant « Pourquoi un tel gaspillage? On aurait pu vendre ce parfum pour un bon prix et donner l'argent aux pauvres. Mais se rendant compte de cela, Jésus leur dit : Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Ce qu'elle vient d'accomplir pour moi est vraiment une belle action. Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. » Et en effet, il allait être arrêté moins d'une semaine après, hein, et comme vous le savez, condamné à mort et exécuté. Si elle a répandu ce parfum sur moi, c'est pour préparer mon enterrement. Vraiment, je vous l'assure, dans le monde entier, partout où cette bonne nouvelle sera annoncée, on racontera aussi en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. On pourrait mettre la diapo d'après. Voilà donc une image que j'ai trouvée sur Internet, représentant un peu la scène. Alors, vous avez noté, je pense, au passage, quelques différences avec le récit de Jean. Les deux récits se passent bien à Béthanie, cette bourgade proche de Jérusalem, environ 3 km, hein, c'est tout près, hein, où habitait Lazare, que Jésus, dans le chapitre précédent, a ressuscité 4 jours après sa mise au tombeau, et où habitaient aussi ses deux sœurs, Marie et Marthe. Jean nous dit « On prépara là un festin en son honneur ». Et juste après, il mentionne que Marthe, à son habitude, s'occupait du service et que Lazare avait pris place à table avec Jésus. L'expression « On lui prépara là un festin », avec mention immédiate de quelques personnes y participant, exclut, pour des raisons grammaticales grecques tout simplement, que ce festin ait eu lieu chez Lazare et ses sœurs. Sinon, le narrateur aurait directement indiqué que c'était la famille de Lazare qui avait organisé ce festin. On peut démontrer ça, hein, par la grammaire grecque. Et d'ailleurs, Matthieu nous précise que cela se passait chez Simon le lépreux, donc pas chez Lazare et Marie ou Marthe, hein, Simon le lépreux. Cette mention « le lépreux » laisse penser qu'il s'agissait probablement d'un homme, donc de Béthanie, que Jésus avait guéri de sa lèpre. Il y a bien des chances. On peut en conclure que suite au miracle extraordinaire opéré par Jésus en ramenant à la vie leur concitoyen Lazare, les villageois de Béthanie ont tenu à honorer Jésus en organisant un festin en son honneur. Et il n'est pas étonnant d'y retrouver Marthe s'occupant du service et Lazare à table avec Jésus. Matthieu, vous l'avez noté, ne précise pas le nom de la femme qui s'est approchée de Jésus et l'a oint avec un parfum, alors que Jean nous dit que c'est Marie. Mais, différence plus notable, Matthieu nous dit que cette femme a répandu un parfum de grand prix sur la tête de Jésus, alors que dans le récit de Jean, Marie l'a répandu sur ses pieds. Cette différence n'est qu'apparente. Et nous verrons pourquoi à la lumière d'une autre onction qui est rapportée, elle, dans l'évangile de Luc, mais qui n'est pas la même histoire. Jean nous précise la quantité de parfum utilisé. Une livre romaine, litra, ça fait 327 grammes, donc plus d'un demi-litre. Petit détail, ah oui, je vous l'ai dit, hein, la Bible Semeur a traduit un parfum de myrrhe et non de nard, comme dans Jean. Là, c'est qu'une différence apparente parce que le mot « muron », hein, qui est utilisé pour n'importe quel parfum liquide, ne désigne pas spécialement de la myrrhe. Et donc, ça peut être du nard, bon, un parfum particulier qui est extrait d'une plante très rare qu'on trouve en Asie. Enfin, c'est un truc très compliqué. Et ça explique pourquoi c'était si cher. On peut aisément harmoniser les récits de Matthieu, Marc et de Jean. La quantité de parfum était tellement importante qu'il est très probable que Marie a versé une partie de ce parfum sur la tête de Jésus et le reste sur ses pieds, tout simplement. Nous verrons plus loin ce qui peut justifier cette hypothèse. Jean est le seul à mentionner que Marie a oint aussi les pieds de Jésus et les a essuyés avec ses cheveux. Ce geste témoigne d'un amour et d'une humilité extraordinaire, car il était honteux pour une femme de délier ses cheveux en public à cette époque. Immédiatement après cette onction, les deux récits nous rapportent l'indignation de ceux qui ont assisté à la scène. dans Matthieu-Marc, ce sont les disciples de Jésus. Dans Jean, c'est uniquement Judas. Mais on peut penser qu'il a dit tout haut ce que les autres pensaient tout bas. Pourquoi un tel gaspillage ? Et on trouve dans les deux récits une justification morale à cette indignation. On aurait pu vendre ce parfum pour un bon prix et donner l'argent aux pauvres. Il faut dire que le prix d'une livre de nard était en effet exorbitant, estimé à au moins 300 deniers par Judas, qui était, semble-t-il, un connaisseur de la valeur des choses matérielles. 300 deniers, c'est presque le salaire annuel d'un ouvrier agricole de l'époque. Dans les deux récits, Jésus intervient et prend la défense de Marie. Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Ce qu'elle vient d'accomplir pour moi est vraiment une belle action. Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. Si elle a répandu ce parfum sur moi, c'est pour préparer ma sépulture, mon enterrement. Vraiment, je vous l'assure, dans le monde entier, partout où cette bonne nouvelle qu'est l'Évangile sera annoncée, on racontera aussi, en souvenir d'elle, ce qu'elle vient de faire. Eh bien, aujourd'hui, dans cette toute petite partie du monde entier qu'est l'église de Villefranche, nous racontons, en souvenir de Marie, ce qu'elle a fait. C'est un privilège d'apporter notre toute petite contribution à l'accomplissement de cette prophétie de notre Seigneur. Cette scène magnifique est aussitôt suivie d'une autre beaucoup plus sombre. Jean nous dit que lorsque les gens apprirent que Jésus était à Béthanie, des foules s'y rendirent pour le voir, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Réaction des chefs des prêtres, ils décident de faire mourir aussi Lazare. Jean dit aussi parce que, à la suite de la résurrection de Lazare, ils avaient déjà officiellement pris la décision de supprimer Jésus lors d'une réunion de leur Sanhédrin. Tout aussi sombre est la réaction de Judas. L'un des 12, choisi par Jésus, comme les 11 autres disciples, qui avait vécu 3 ans à sa compagnie, il se rendit auprès des chefs des prêtres pour leur demander « Si je me charge de vous livrer Jésus, quelle somme me donnerez-vous » Ils lui versèrent 30 pièces d'argent. À partir de ce moment-là, il chercha une occasion favorable pour leur livrer Jésus, et comme on le sait, il va la trouver. Contraste saisissant. D'un côté, un village qui tout entier honore Jésus par un banquet en son honneur, et une femme de ce village qui témoigne envers Jésus de son amour et son adoration d'une façon magnifique. De l'autre, la conspiration meurtrière des autorités religieuses juives et l'ignoble trahison d'un des disciples de Jésus. Vous voyez comme Jean aime les contrastes. Mais les évangiles nous rapportent une autre onction de Jésus, toute différente, mais qui explique un peu mieux pour nous occidentaux du XXIe siècle le geste de Marie. C'est Luc 7, versets 36 à 50, on va le lire. Donc dans l'évangile de Luc, chapitre 7, verset 36. Alors, je rappelle, hein, ce n'est pas du tout la même histoire, ce n'est pas le même épisode. Mais là aussi, il y a une onction, et il y a des points semblables. Donc, Luc 7, verset 36. « Un pharisien invita Jésus à manger. Jésus se rendit chez lui et se mit à table. Survint une femme connue dans la ville pour sa vie dissolue. » Déjà, rien que ça nous montre clairement que ça ne peut pas être la même chose. Comme elle avait appris que Jésus mangeait chez le pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre rempli de parfum. Elle se tint derrière lui, à ses pieds. Elle pleurait. Elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Alors elle les essuya avec ses cheveux et en les embrassant, elle versait le parfum sur eux. En voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit « Si cet homme était vraiment un prophète, Il saurait quelle est cette femme qui le touche, car c'est quelqu'un qui mène une vie de débauche. » Jésus lui répondit à haute voix. C'est drôle parce que le pharisien, lui, il a dit ça dans sa tête. Alors Jésus lui répond à haute voix. Hein. « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Oui, maître, parle, » répondit le pharisien. « Il était une fois un prêteur à qui deux hommes devaient de l'argent. Le premier devait 500 pièces d'argent, le second 50. Comme ni l'un ni l'autre n'avait de quoi rembourser leur dette, il fit cadeau à tous deux de ce qu'ils lui devaient. À ton avis, lequel des deux l'aimera le plus ?» Simon répondit, « Celui, je suppose, auquel il aura remis la plus grosse dette. » « Voilà qui est bien jugé, » lui dit Jésus. Puis se tournant vers la femme, il reprit, « Tu vois cette femme ? Eh bien, quand je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas apporté d'eau pour me laver les pieds. Mais elle, me les a arrosées de ses larmes et les a essuyées avec ses cheveux. Tu ne m'as pas accueilli en m'embrassant, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a cessé de couvrir mes pieds de baisers. Tu n'as pas versé d'huile parfumée sur ma tête, mais elle, a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Mais celui qui a peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. » Puis il dit à la femme, « Tes péchés te sont pardonnés. » Les autres invités se dirent en eux-mêmes, « Qui est donc cet homme qui ose pardonner les péchés ?» Mais Jésus dit à la femme, « Parce que tu as cru en moi, tu es sauvée, va en paix. » Alors, donc Jésus est invité chez ce pharisien, qui lui aussi s'appelle Simon, mais c'est la seule similitude, si vous voulez, entre ces deux récits. Le prénom de Simon, enfin le nom de Simon, était tellement répandu à l'époque que ça n'a rien d'étonnant. La similitude est donc tout à fait fortuite. Jésus donc prend part au repas que lui offre ce pharisien, quand survient une femme qui, elle aussi, apporte un flacon d'albâtre plein de parfums. Luc nous précise que c'était une femme connue dans la ville pour sa vie dissolue. Se tenant derrière Jésus à ses pieds, car on mangeait, vous savez, en position allongée, on le voit sur l'image là, elle pleurait et lui mouillait les pieds de ses larmes. Elle lui essuyait les pieds avec ses cheveux et versait du parfum sur eux en les embrassant. Alors le pharisien s'indigne. Vous voyez, beaucoup de gens qui s'indignent. Hein. Le pharisien s'indigne intérieurement et doute que Jésus soit un prophète, car il aurait alors connu qu'il s'agissait d'une femme de mauvaise vie. Jésus discerne ses pensées. Elle interpelle en lui racontant la parabole que nous venons de lire, immédiatement suivie d'un cinglant reproche. « Quand je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas apporté d'eau pour me laver les pieds. Mais elle me les a arrosées de ses larmes et les a essuyées avec ses cheveux. Tu ne m'as pas accueilli en m'embrassant, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a cessé de couvrir mes pieds de baisers. Tu n'as pas versé d'huile parfumée sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. » Cette scène éclaire un peu pour nous, je pense, l'onction de Béthanie, en nous décrivant les codes de politesse de l'époque, lorsqu'on invitait quelqu'un pour un repas. Alors c'est sûr, on ne fait plus ça maintenant. On lui proposait un bain de pied, souvent réalisé par un esclave, en raison des chemins poussiéreux de la Palestine, tout simplement. On lui donnait un baiser de bienvenue. Et même, on oignait la tête de l'invité de parfum. Simon le pharisien avait négligé ses gestes de bienvenue et Jésus lui en fait le reproche. Marie de Béthanie a accompli de façon magnifique ses gestes pour honorer la personne de Jésus. Elle a oint la tête et les pieds de Jésus de parfum et d'un parfum tellement cher qu'on lui en fait le reproche. Elle a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux, geste d'humilité et d'adoration, qui ressemble beaucoup à celui de la femme pécheresse qu'on vient de lire. Pécheresse, mais pardonnée. Dans le cas du geste de Marie, Jésus dit qu'elle l'a oint de parfum en anticipation de sa sépulture. C'est un fait que le corps de Jésus n'a finalement pas été embaumé. Car les femmes qui sont venues au tombeau au matin de la résurrection avec des aromates qu'elles avaient préparés, n'ont trouvé qu'un tombeau vide. Marie avait-elle réalisé que Jésus allait mourir en très peu de jours? Nos textes ne le disent pas expressément, mais Jésus interprète son geste comme une anticipation de l'embaumement de son corps. Le geste de ces deux femmes a un point commun très parlant pour nous, leur amour et leur adoration pour Jésus. Et on voit que Jésus a été très sensible à cette manifestation de leur amour. Malgré la honte que pouvait susciter le fait de défaire ses cheveux pour essuyer les pieds d'un homme, en public. Nous disons dans nos cultes que nous adorons et aimons Jésus, et nous avons bien raison de le faire. Il en est totalement digne. Avons-nous suffisamment d'amour et de courage pour le dire aussi en public, en dehors de ces murs? Jésus a déclaré aux pharisiens de Luc 7 « Ses nombreux péchés lui ont été pardonnés, c'est pour cela qu'elle a témoigné tant d'amour. » Le pharisien se pensait sans doute à peu de choses près irréprochable, et son amour pour Jésus était à la hauteur de sa prétention d'être un homme juste. Sommes-nous conscients de l'abîme de péché qui est notre situation réelle devant Dieu, et donc de la profusion d'amour et d'adoration que nous devrions en toute sincérité et vérité lui témoigner? Jésus a dit que le geste de Marie serait raconté partout où l'Évangile serait proclamé. Témoigner un tel amour fait donc partie de la proclamation de l'Évangile. Témoigner notre amour pour lui et manifester de l'amour pour tous les hommes et particulièrement pour les perdus auxquels nous annonçons l'Évangile. On pourrait mettre la dernière diapo. Alors, j'ai écrit. Le geste matériellement insensé de Marie a été apprécié par notre Sauveur, qui a même pris sa défense contre ceux qui s'en indignaient. Ne nous convient-il pas de faire monter vers lui une adoration sans réserve, je dirais même sans compter, et de lui dire tout notre amour? Jésus est auprès du Père, au ciel. Mais nous pouvons aimer son corps mystique sur cette terre, c'est-à-dire nos frères et sœurs, son Église, pour laquelle il a donné sa vie. Les aimons-nous de tout notre cœur et le traduisons-nous par des actes généreux, sans nous trouver des raisons hypocrites de mieux employer nos ressources, comme Judas. Voilà, que le Seigneur bénisse sa parole et tous ses détails tellement extraordinaires.